Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 14 octobre. La vaccination de 85% de la population pourrait endiguer la propagation du variant Delta sans masque. Présidentielle 2022, un sondage place Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol au coude à coude. Coopération intercoréenne, première navigation d'essai dans l'estuaire du fleuve Han. Enfin, selon Lee Soo-hyuk, Washington n'envisage pas d'élargir le Quad pour le moment. Ces dernières 24 heures, le bilan quotidien fait état de 1940 nouveaux cas positifs, dont 81,6% recensés dans la région de Séoul. 13 nouveaux décès sont à déplorer, ce qui établit le taux de létalité depuis le début de la pandémie à 0,78%. Il s'agit d'une baisse de 485 individus par rapport à il y a une semaine. Côté vaccination, 61% de la population ont achevé le schéma vaccinal complet et 78,3% ont reçu leur première dose de sérum. Pour encourager les citoyens à passer à l'acte, les autorités sanitaires étudient la possibilité d'élargir les bénéfices accordés aux individus complètement vaccinés et augmenter le nombre de ces personnes autorisées à se réunir en privé. Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé qu'il envisageait d'injecter une dose supplémentaire aux vaccinés du Janssen. En effet, 6 à 8 mois après la première inoculation, ces derniers font l'objet d'une nouvelle injection. Ainsi, l'exécutif projette pour le moment de leur fournir du Pfizer ou bien du Moderna, mais comme de récentes recherches ont démontré l'efficacité du Janssen pour une deuxième dose, il prévoit de trancher les modalités de ce rappel avant décembre. Et par ailleurs, les autorités sanitaires ont estimé qu'une fois que 85% de la population aura été complètement vaccinée, il sera possible d'endiguer la transmission du variant Delta du Covid-19. La cellule d'urgence interministérielle en a fait part cet après-midi lors de son briefing régulier. Selon elle, si ce taux atteint 85% et l'immunité collective s'élèvera alors à près de 80%. Et dans ce cas, le pays sera capable théoriquement de résister même au variant Delta sans port du masque dans les établissements ouverts au public, ni restrictions sur les horaires d'ouverture et sur le nombre de personnes autorisées à se réunir en privé. Concernant la perspective de l'évolution du nombre de quotidiens de nouveaux patients, le gouvernement a expliqué qu'il est hautement probable que la tendance baissière se poursuive grâce à la augmentation rapide du nombre de vaccinés. Présidentielle 2022, le candidat du Minju, le parti au pouvoir à la présidentielle, Lee Jae-myung, devancerait dans un mouchoir de poche son rival du parti du pouvoir du peuple, la première force de l'opposition, Yoon Suk-yeol, avec 34% contre 33,7%. C'est en tout cas le résultat d'un sondage mené par l'agence Realmeter auprès de 2027 adultes entre mardi et mercredi. Il s'agit d'une éventuelle course à 4 entre l'actuel gouverneur de la province de Gyeonggi pour le Minju, l'ex-procureur général pour le PPP et la candidate du Parti de la Justice, Shim Sang-jung, et celui de du Parti du Peuple, Ahn Chol-soo. Shim et Ahn ont obtenu respectivement 4,2 et 4% d'avis favorables. Quant à savoir qui sera le plus apte à concourir pour le PPP, Yoon Suk-yeol arrive en tête avec 30,3% des soutiens. Et vient ensuite le député Hong Joon-pyo avec 25,5% et l'ex-élu Yoo Seung-min avec 12,5%. Le taux de confiance du sondage est de 95% avec une marge d'erreur de plus ou moins 2,2 points.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Un bateau civil a navigué dans l'estuaire du fleuve Han que les deux Corées sont convenus d'utiliser conjointement. Ce navire de 40 tonnes arborant un drapeau de la péninsule coréenne passe lentement sous le viaduc de Ganghwa. La terre que l'on aperçoit en face est la ville nord-coréenne de Gaesong. 500 mètres face à elle se situe la zone neutre de l'embouchure du Han. C'est la première fois qu'un bateau civil franchit la ligne de limitation pour la pêche. Selon le ministre sud-coréen de la réunification, Lee In-yang, il s'agit d'un endroit à partir duquel le Nord et le Sud peuvent tenter une approche plus souple et créative. Et le gouvernement envisage de développer de telles démarches. Cet estuaire qui relie la mer Jaune à Séoul était fréquenté dès le début de la dynastie Joseon, mais division nationale oblige, son accès est bloqué aux civils. Or, les dirigeants des deux Corées ont décidé de promouvoir activement l'utilisation conjointe de cette zone lors de leur sommet tenu le 4 octobre 2007 à Pyongyang. Et puis, dans l'accord militaire intercoréen signé le 19 septembre 2018, elle a été désignée comme zone d'emploi conjoint. Et deux mois plus tard, les deux côtés y ont même mené ensemble des recherches avant d'en publier une carte maritime. Cependant, suite à la déconvenue du deuxième sommet nord-coréano-américain à Hanoï en février de l'année suivante, ce projet de coopération a marqué le pas. De l'avis des observateurs, l'estuaire du Han constitue une clé pour la relance de la coopération Séoul-Pyongyang, d'autant qu'il ne présente pas de problème lié aux droits de propriété. On passe à la politique. L'audit parlementaire sur les actions de l'ambassade de Corée du Sud à Washington a eu lieu hier sur place. La possibilité que Séoul rejoigne ou non le dialogue quadrilatéral pour la sécurité ou Quad a également été évoquée. Un député de l'opposition conservatrice a alors demandé à l'ambassadeur si l'administration Biden avait proposé au pays du matin clair d'y participer lui aussi. Lee Soo-hyuk a répondu que les États-Unis lui avaient confirmé ne pas envisager pour le moment d'élargir le format de cette alliance créée pour contrer les ambitions chinoises dans la zone Indo-Pacifique. Elle regroupe outre les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Pour rappel, les dirigeants de ces quatre nations s'étaient réunis pour la première fois en mars, alors par visioconférence, et se sont retrouvés le mois dernier, cette fois-ci en personne à la Maison Blanche. Dans ce contexte, il a été évoqué la possibilité d'étendre le partenariat à un quad plus avec notamment la Corée du Sud, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Cela dit, Séoul continue d'affirmer ne jamais avoir reçu de proposition en ce sens. Le représentant sud-coréen aux États-Unis n'a cependant pas exclu la nécessité d'y participer de manière restreinte. Il a alors cité trois domaines concernant les technologies, le climat et la santé publique, tout en estimant encore prématuré d'en parler, puisque selon Washington, le Quad ne prendra pas d'ampleur pour l'heure. Dans l'actualité internationale, les États-Unis ont décidé de faire front commun avec une trentaine de pays afin de lutter contre les attaques de ransomware effectuées notamment par la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Un haut responsable de l'administration américaine a annoncé que pour cela, les ministres ou de hauts responsables gouvernementaux de quelques 30 États se sont réunis hier et aujourd'hui par liaison vidéo. Parmi les pays participant à cette conférence dite « Initiative anti-ransomware » organisée par le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche figurent notamment la Corée du Sud, le Japon, l'Union européenne ou encore la France. Si le président américain Joe Biden a plaidé pour la coopération internationale en vue de faire face à ces attaques informatiques par des logiciels de rançon à l'occasion du sommet du G7 et de l'OTAN en juin dernier, c'est la première fois qu'une conférence de cette ampleur se tient. En septembre, les prix à l'exportation et à l'importation ont tous deux grimpé par rapport au mois précédent. Et ce, sous l'effet notamment de la chute du won face au dollar américain et de la hausse des cours du pétrole. C'est ce que montrent les données communiquées aujourd'hui par la Banque de Corée. Concrètement, les prix à l'exportation ont progressé de 1% sur un mois, une tendance qui se poursuit pour le 10e mois de suite. Leur indice a ainsi atteint 114,18, le plus haut depuis juillet 2013. En ce qui concerne les prix à l'importation, ils ont flambé de 2,4%, également en glissement mensuel. Ils sont montés pour le 5e mois d'affilée. Leur indice s'est établi à 124,58, du jamais vu depuis février 2014. Et pour terminer, le système de restauration dont l'armée va faire peau neuve. Après avoir d'abord élaboré des menus en tenant compte des préférences des soldats, l'armée sélectionnera ses fournisseurs à travers des appels d'offres. Et d'ici 2025, tout contrat sera soumis à cette procédure compétitive. Mais les agriculteurs qui alimentent actuellement l'armée protestent contre cette perspective. Afin d'améliorer la qualité médiocre des repas servis dans les casernes, tant décriée par les soldats sur les réseaux sociaux, le ministère de la Space Défense a dévoilé son plan global visant à y remédier en reflétant les goûts des militaires et en faisant jouer la concurrence parmi les fournisseurs. Tout en maintenant le système de contrats à l'amiable avec les corporations de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage pendant les 3 ans à venir, les autorités militaires réduiront progressivement la quantité de produits fournis par ces dernières afin d'adopter un système d'appel d'offres dès 2025. Elles examineront néanmoins la possibilité de donner priorité à ces entreprises si elles arrivent à satisfaire les conditions requises. Actuellement, les ingrédients sont fournis à travers un accord passé entre le ministère et les corporations en question. Ce régime plutôt favorable aux fournisseurs a pour but d'assurer un approvisionnement stable. Mais il est souvent dénoncé comme à l'origine du mécontentement des jeunes soldats qui ont expérimenté des cantines de meilleure qualité à l'école. Ainsi, les militaires devraient désormais être invités à donner leurs idées pour l'élaboration de menus 2 ou 3 mois avant qu'ils ne soient servis. C'est la fin de ce journal présenté aujourd'hui par Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.